Un air d'actu avec Serge Carrel.
Auguste privilège ce matin dans le studio de Radio Air. Deux militaires vont répondre à nos questions. Ils portent le grade de capitaine et ces deux pasteurs évangéliques viennent de terminer leur formation d'aumônier au service de l'armée suisse. Madame, monsieur, bienvenue. Maxime Jacquillard, Daniel Ruffnacht, bonjour.
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 Alors tous deux, vous êtes pasteurs dans une église de la Fédération romande d'églises évangéliques sur la côte vaudoise. Maxime Jacquillard, vous êtes pasteur à Gimel, Daniel Ruffnacht à Rolle. Alors pourquoi vous est-il apparu important de venir ce matin dans ce studio habillé en habit militaire ?
Ben c'est assez simple, c'est qu'en fait nous sommes ambassadeurs d'une institution dans laquelle nous sommes employés et ça se verrait assez mal de venir en short, t-shirt, représenter l'armée suisse. Donc pour nous, pour moi, c'était important de venir en tant que représentant de l'aumônerie habillé en aumônier.
Alors Maxime Jacquillard, vous avez été doté tout dernièrement d'un grade prestigieux dans l'armée suisse, celui de capitaine. Qu'est-ce que ça vous fait, capitaine Jacquillard ?
Alors une certaine fierté, mais surtout fier qu'il soit en face du symbole de la croix. Cela signifie que nous sommes capitaine aumônier. Capitaine correspond à une certaine attitude et aumônier à des compétences.
Oui, c'est un grade important dans l'armée suisse, le grade de capitaine.
Oui, il est important, mais en même temps, il est accessible à la troupe parce qu'on est au milieu, mais également des gradés supérieurs, donc des commandants, des cadres. Et du coup, en tant qu'aumônier, on est accessible de part et d'autre.
Alors, c'est dans le cadre de la Fédération romande d'Églises évangéliques, c'est la première fois qu'il y a des pasteurs qui deviennent capitaines aumôniers, qui deviennent aumôniers militaires. Qu'est-ce que vous avez dû faire concrètement pour entrer dans cette fonction au sein de l'armée suisse, Maxime Jacquillard ?
On a d'abord déposé un dossier, une demande. Il y a eu l'accord de notre fédération. Il y a aussi eu des tests médicaux. Il y a eu un entretien à Thun. Un entretien à la fois de discernement, mais en même temps d'information, avec des études de cas, un entretien final. Et finalement, on a reçu la réponse positive.
Daniel Ruffnacht, vous avez dû suivre une formation.
Oui, exactement. On a suivi, suite à toutes ces démarches que Maxime a présentées, nous avons dû suivre une formation intensive de 3 semaines à Lucerne, avec justement toute la théorie, comment est-ce qu'on aborde ce travail, comment est-ce qu'on aborde les militaires, mais il y a aussi toute la formalité, et également les cas difficiles, qu'est-ce qu'on fait quand on a une situation avec un deuil ou des choses de ce type-là.
Alors, expliquez-nous un petit peu, pourquoi est-ce que c'est nouveau dans les milieux évangéliques d'avoir en Suisse des pasteurs de ces milieux-là, aumôniers militaires?
Ça s'est passé il y a quelques années. Le réseau évangélique a émis des contacts avec l'aumônerie suisse pour essayer de voir si c'était possible que les pasteurs puissent rejoindre les rangs de l'armée.
Donc, il faut juste préciser qu'il y a déjà des pasteurs catholiques, des pasteurs ou des aumôniers catholiques et des aumôniers réformés. Et finalement, l'armée a accepté d'ouvrir ce statut d'aumônier à des représentants d'autres confessions.
Absolument. Les aumôniers catholiques et réformés sont là depuis le début, si j'ose dire ainsi. Et ça a été un peu chasse gardée de ces deux sans leur jeter une pierre, mais il était impossible de rejoindre l'aumônerie. D'ailleurs, moi, en tant que jeune pasteur, dans les années 2000...
Vous étiez intéressé à exercer une telle fonction, un tel ministère?
C'était mon souhait. Et mon dernier cours de répétition, j'ai demandé à pouvoir faire une journée avec l'aumônier, ce qui était possible à ce moment-là. Et j'ai demandé, ça m'intéresserait bien. Et au final, on nous a dit, non, les évangéliques, vous ne pouvez pas. J'ai mis une croix sur cette idée-là. Et c'est vrai que quand j'ai eu cette discussion avec Maxime, parce que c'est avec lui qu'on a eu cette discussion
ensemble.
Donc,
vous avez mené une démarche conjointe, on pourrait dire.
Oui, c'est ça qui est étonnant, quelque part, parce qu'en étant quasiment voisins du côté de la côte, j'ai découvert qu'en fait, c'était possible. Mais ça, c'est le réseau évangélique qui a émis ses souhaits. Mais c'est Stéphane Junger, l'ancien responsable de l'aumônerie, des aumôniers suisses, qui a fait les démarches avec le réseau évangélique et la Freikirchen, qui est le pendant suisse allemande.
Et est-ce qu'on peut dire que quelque part ce sont les suisses alémaniques, les évangéliques suisses alémaniques qui ont un peu poussé à la roue et qui ont permis aux pasteurs évangéliques d'avoir la possibilité d'exercer un tel ministère?
Je crois que c'est surtout Stefan Jünger qui a voulu que donc les évangéliques...
Le big boss de l'aumônerie
à l'époque. D'accord. Aujourd'hui, il n'est plus. Il a été remplacé par Samuel Schmid. Mais effectivement, c'est
donc
eux qui ont
donc ce n'est pas
poussé.
Le conseiller fédéral. Hein.
Non, on est d'accord.
Le conseiller fédéral, c'est quelqu'un d'autre. D'accord. Et puis finalement, ce qui est aussi intéressant dans cette démarche, c'est que vous avez dû suivre une formation. Maxime Jacquillard, qu'est-ce qu'elle vous a apporté concrètement à vous qui êtes déjà pasteur depuis de nombreuses années? Qu'est-ce que cette formation vous a apporté?
Il y a d'abord l'intervention en situation de crise. Et c'est intéressant, des crises assez pointues, comme des suicides ou des décès suite à des circonstances dramatique, et tout l'environnement armé est à considérer avec l'importance de réagir vite, d'aller vite au contact des familles, et puis aussi de pouvoir travailler sur les besoins qui sont sur le terrain, de mettre les gens en sécurité. Et tout cela est très intéressant d'un point de vue pastoral.
Voilà, ça vous a vraiment nourri, ça a quelque part donné peut-être une dimension nouvelle à votre ministère pastoral.
Oui, exactement.
Il y a aussi toute la partie d'accompagnement spirituel qui nous a été présentée. Ça a été le cœur finalement de ces 3 semaines de formation.
Oui, parce qu'il faut préciser finalement, vous n'allez pas vous adresser qu'aux soldats ou aux représentants d'églises évangéliques, mais vous allez avoir une aumônerie de type non confessionnel.
Exactement. Nous allons être des personnes de référence pour toute la troupe, c'est-à-dire du soldat, de la recrue, même avant d'être soldat, jusqu'au cadre et aux responsables. Donc, il y a vraiment toute la panoplie du militaire qui est concernée, quelque part, par notre travail. Et ce que nous voulons, c'est être accessible et être à l'écoute. C'est d'ailleurs ce rôle que nous avons, c'est un accompagnement spirituel, c'est-à-dire on vient avec une oreille attentive et permettre à des gens qui ont des soucis, qui ont des problèmes, de leur donner... Alors, on va pouvoir leur donner certaines réponses. Puis, quand on n'a pas les réponses, on a justement été informé dans ce cours de 3 semaines de tout un réseau dans lequel on peut aller piocher des informations et des aides pour pouvoir justement aiguiller ces personnes.
Comment est-ce que vous allez faire, Maxime Jacquillard, quand vous allez devoir accompagner quelqu'un qui est agnostique, athée, ou même quelqu'un qui a des racines et un engagement de foi, peut-être musulman ou juif?
Alors c'est intéressant, c'est vrai que ça rejoint la question précédente, ça a redynamisé ma compréhension du ministère pastoral, dans le sens qu'il s'agit d'abord d'être présent sur le terrain, d'être là à ses côtés, quelles que soient ses convictions, et après de pouvoir écouter la personne et observer aussi, et après de pouvoir faire appel à ses propres sources. C'est une formation qui est bien développée, je dirais, au nord de l'Europe, en Suisse allemande, qui s'appelle LOS, qui fait appel aux ressources des gens. Et après...
Donc finalement, on peut imaginer à leurs ressources spirituelles, oui, pour que ces personnes puissent en elles-mêmes de quoi se tirer du mauvais pas dans lequel elles sont peut-être tombées.
C'est exactement ça. Et c'est vrai que dans ce cadre-là, ils peuvent exprimer une demande, et à quelque part dans le cadre d'une relation qu'on vit, vie partagée, un certain coaching, dans le sens qu'on est à l'armée, il y a quand même des objectifs qui sont là aussi, en tant que, on évoquait le rôle de l'officier, mais en tant qu'aumônier, là on est l'aumônier, il y a aussi une forme de mentoring, c'est-à-dire qu'on fait appel à ses buts profonds, à ce que la personne aspire, à ce que l'humain aspire, et je réalise que dans ce cadre-là, dans cette relation-là, il y a souvent des questions qui peuvent surgir, des conseils, peut-être plus en l'humanité, mais je dirais que tous les champs du possible sont ouverts à ce moment-là aussi.
Daniel Rüffnacht, on connaît, hein, en tout cas c'est l'image qu'on en a dans le grand public, on connaît les évangéliques comme particulièrement orientés sur l'annonce de l'évangile de Jésus-Christ. Vous-même, vous voyez cette aumônerie que vous allez exercer comme une sorte de tribune dans laquelle vous pourriez proclamer l'évangile?
Je viens en tant qu'aumônier militaire dans un cadre qui est donné, c'est celui du militaire. Et on me demande d'être là avec mes origines, mes convictions, c'est-à-dire j'ai une foi chrétienne et je vais la vivre à ce moment-là. Mais c'est clair que je ne vais pas prendre la parole, ça va pas être une tribune d'évangélisation. C'est pas une plateforme d'évangélisation, l'armée. C'est un endroit où je viens avec mes convictions, parce que je suis enraciné dans quelque chose dans lequel je crois, clairement.
Et ça, c'est reconnu par l'armée, c'est accepté pleinement. Chaque aumônier vient avec son trésor de spiritualité, on peut dire, et c'est valorisé.
C'est même un prérequis pour devenir aumônier. Si vous n'avez pas quelque chose de concret au niveau de votre foi, qu'elle soit évangélique, catholique, réformée, ou même juive ou musulmane, il est impossible de devenir aumônier. Vous ne pouvez pas, en tant que psy, juste venir là. Et puis, il y a besoin d'une conviction chrétienne forte, quelque part. Et on nous le demande.
Donc, d'ailleurs, quand vous parlez de conviction chrétienne, c'est une conviction de foi, qu'elle soit chrétienne, juive ou musulmane,
absolument.
Puisque
ouais,
finalement, depuis
conviction
peu,
de foi. Ouais,
une
c'est
conviction
juste.
De foi. D'accord. Mm-hmm. Et ce qui est intéressant, vous avez mentionné là la question de l'accompagnement psychologique. Est-ce que finalement, à votre place, il pourrait y avoir des psychologues?
Alors, clairement, non. Par rapport à l'accompagnement, c'est complémentaire. Il nous demande de jouer la carte de l'unité entre les aspects sociaux, les aspects psychologiques, les aspects spirituels.
Et qu'est-ce qui vous différencie, Maxime Jacquillard?
Alors, déjà, c'est la présence sur le terrain, clairement. Nous sommes présents avec la troupe. Ensuite, c'est qu'on a accès à des outils spirituels. Ça, bien sûr, c'est évident. Mais une spécificité, c'est qu'il n'y a pas de rapport qui est fait. On ne fait aucun rapport, contrairement aux psychologues. C'est-à-dire que nous n'allons pas catégoriser les gens.
Donc, il n'y a pas de traces écrites, concrètes, de l'entretien ou des discussions que vous pourriez avoir avec certains soldats?
Oui, absolument. C'est même interdit, quelque part.
Okay.
Le secret pastoral est fondamentalement important dans cette situation-là.
Et il est garanti?
Oui.
Il est garanti. Donc, finalement, ça permet aux soldats de s'approcher de manière beaucoup plus libre des aumôniers.
Et puis, on peut, nous, rencontrer le militaire dans un esprit d'accueil et d'ouverture, parce que ce cadre est donné, comme on dit.
On en a entendu parler tout à l'heure. Il y a une ouverture qui est faite maintenant aux évangéliques. Et ce qui est intéressant, c'est que ça ne se passe pas via une sorte de fêtière comme le réseau évangélique, mais chaque fédération évangélique doit signer une convention avec l'aumônerie de l'armée.
Exactement.
Et en Suisse romande, combien y a-t-il de fédérations évangéliques qui se sont engagées sur ce terrain-là, qui se sont engagées quelque part à proposer à leurs pasteurs d'exercer un ministère d'aumônier?
À notre connaissance, 5 fédérations, c'est-à-dire les apostoliques, l'action biblique, il y a aussi les églises évangéliques de réveil.
Et puis la Fédération romande d'églises évangéliques.
Et puis l'Armée du salut.
L'Armée du salut aussi a des possibilités d'engagement dans les postes demandés. Est-ce que, de manière toute concrète, il y a aussi des possibilités pour des femmes pasteurs de devenir aumôniers militaires ou aumônières militaires?
Absolument. C'est d'ailleurs une des recherches de l'aumônerie. C'est à l'heure actuelle, sur les 177 aumôniers qui sont en service aujourd'hui, il y a 18 femmes. Et le chiffre ne demande qu'à être augmenté.
Alors, ce qui est intéressant, c'est que ces dernières années, l'aumônerie qui était chrétienne, longtemps, s'est élargie à la présence de juifs et de musulmans. Et vous-même, dans le cadre de vos 3 semaines de formation, vous avez été en contact avec des représentants des communautés musulmanes et juives de ce pays.
Ouais, nous avons été les premiers dans cette formation à pouvoir vivre une de ces formations justement avec des juifs et un musulman en l'occurrence. Et ça a été d'une richesse extraordinaire de voir qu'est-ce qui nous unit. Nous sommes tous monothéistes. Nous avons comme base le Dieu d'Abraham. Et une des anecdotes était quand même celle-ci, c'est que le responsable juif qui était là reçoit un paquet avec un saucisson et il appelle Maurice, viens voir, et puis il partage le saucisson ensemble. Ce que nous, on n'aurait pas pu faire vu que notre saucisson n'était pas selon les règles établies pour pouvoir le consommer.
Voilà. Maxime Jacquillard, tout à l'heure, vous avez dit que vous étiez très fier d'arborer sur votre tunique le grade de capitaine, puis en vis-à-vis la croix. Mais cette croix va changer, le signe devrait prochainement, à cause de l'intégration d'aumôniers juifs et d'aumôniers musulmans, cette croix devrait être modifiée.
Alors, c'est un processus en cours. C'est plutôt un processus actuellement de l'ordre de la réflexion. Mais l'idée, c'est qu'il y aura un symbole qui sera accepté et acceptable par chacun. Et on peut, de là, on peut tout imaginer. Effectivement, il y a cette tension entre trouver un symbole qui réunit toutes les religions dans cette grande idée d'un soutien spirituel et en même temps de garder, c'est très important, la spécificité, la tradition, l'ancrage de chacun. Alors, est-ce qu'il y a plusieurs zones de l'uniforme qui vont être utilisées? Nous pensons avec Daniel que la croix va rester pour les chrétiens. Anecdote quand même, c'est qu'il y a un certain nombre de soldats qui pensent, en nous voyant, que nous sommes les services funèbres de l'armée. Donc, pour dire aussi que la société a évolué dans sa compréhension du sens de la croix, voilà. Et ça dit quelque chose sur notre société. Alors, comme le veulent les règles de communication, hein, c'est entendre ce que dit l'autre sans se laisser enfermer par ce que dit l'autre et se dire, mais qu'est-ce qu'on veut, nous, pour communiquer à cette société? Donc, c'est une étape intéressante aussi. Mais c'est vrai qu'on est attaché à cette croix.
Maxime Jacquillard, Daniel Rufnacht, on vous retrouve juste après cette chanson de Christian Frappier, « Où chercher ?»
Chercher ce pourquoi je crie et je crois, où vivre et c'est mort, vers qui et vers quoi irai-je, dites-moi, où pouvoir me trouver sans être privé de la vérité pour l'éternité, sinon à tes pieds. Qu'il n'y a pas d'autre lieu sur terre et dans les cieux, d'autres endroits que près de toi. Tu es le Saint Messie de Dieu, Christ envoyé pour ceux qui, comme moi, cherche avec foi. Chercher ce pourquoi je crie et je crois, où vivre ici-bas, vers qui et vers quoi irai-je, dites-moi, où pouvoir me trouver sans être privé de la vérité pour l'éternité, sinon à tes pieds. Je sais que nul ne vient à toi sans que tu n'aies déjà acquis d'avance sa délivrance. Mon Dieu, c'est toi le Dieu vivant, et je me tiens devant mon espérance en ta présence. Chercher ce pourquoi je crie et je crois, où vivre ici-bas, vers qui et vers quoi irai-je, dites-moi.
Vous écoutez un air d'actu sur Radio Air. Nous recevons aujourd'hui deux pasteurs évangéliques qui viennent de devenir aumôniers militaires au sein de l'armée suisse. Alors, Maxime Jacquillard, à titre personnel, qu'est-ce qui vous motive vous-même à vous engager comme aumônier militaire?
Premièrement, c'est la mission que Jésus nous a confiée, aller dans le monde et partager l'amour de Jésus-Christ avec chacun. Et ça fait aussi partie de mon histoire personnelle quand j'étais moi-même militaire, recrue sur la place d'armes de Bière. Je me rappelle la visite de l'aumônier, d'avoir pu prendre une Bible que j'ai d'ailleurs toujours sur moi dans ma tenue de combat maintenant. Et cette petite Bible, je la lisais les soirées de sortie sur un banc face au Mont-Blanc et je méditais.
Vous vous rappelez du nom de cet aumônier?
C'était Udo Beyer. Et qui est maintenant à la retraite. Hein, et
donc c'était un pasteur réformé, Hugo Beyer, qui venait régulièrement vous visiter alors que lui-même était pasteur à Gimel.
Exactement. Et maintenant que je suis pasteur à Gimel, que j'y suis arrivé, je me suis dit, tiens, j'aimerais bien pouvoir transmettre ce que j'ai reçu à d'autres. Il faut se représenter que c'était il y a 30 ans, quoi. Donc c'était un autre monde. Néanmoins, ça m'a donné cette motivation.
Daniel Rufthart, vous-même, qu'est-ce qui vous rejoint particulièrement dans ce que vous faites maintenant en tant qu'aumônier militaire? Parce que vous-même, vous avez une carrière militaire plus longue que celle de Maxime Jacquillart.
C'est vrai, moi j'ai fait mon école de recrue en 1990 et j'ai terminé mes services en 2005. Mais j'ai toujours...
Avec un grade.
Alors, un grade, oui. C'était celui d'appointé. C'est le plus beau des grades. C'est celui qu'on ne doit pas payer de galon. Quoique celui de capitaine, là, aujourd'hui, on n'a pas spécifiquement besoin de payer de galon, mais je vais être militaire jusqu'à 65 ans. Donc, c'est ça qui fait la différence.
Mais concrètement, qu'est-ce qui vous motive? En quoi est-ce que ça rejoint, quelque part, le cœur de votre engagement pastoral?
C'est de pouvoir être là pour des personnes qui sont en recherche, qui ont besoin de parler. En fait, ça s'est déclaré justement lors d'un de mes derniers cours de répétition où, quand on discutait de « qu'est-ce que tu fais dans la vie ?», je disais « pasteur ». Et puis les gens me disaient « on peut boire une bière à la fin, ce soir ?» Et puis on discutait de ces choses-là. Et c'est là que ça a fait en fait résonner quelque chose en moi, d'être présent, d'être là, une oreille attentive, une écoute pour des gens qui, dans le cadre de l'uniforme où tout le monde est la même chose, il n'y a pas de différence, on est tous habillés la même chose.
Non, mais concrètement, pour être exact, parce que j'ai aussi eu l'occasion de faire du service militaire, la proximité en étant co-soldat, à dormir, à passer des journées ensemble, ça permet pour le pasteur, entre guillemets, non-aumônier, d'avoir une proximité. Celle de l'aumônier capitaine n'est pas tout à fait la même. Vous êtes quand même dépositaire d'un grade et vous n'avez pas la même proximité que le simple soldat avec la troupe.
Non, justement, là maintenant, elle est officielle. C'est-à-dire que j'ai ce rôle et on nous a appris clairement que nous avons besoin d'être avec la troupe. C'est-à-dire qu'il y a de fortes chances que j'aille déjeuner avec les recrues.
Donc vous-même, dans le cadre de cet engagement d'aumônier, vous envisagez cette proximité de passer du temps avec les gens?
Ah, clairement. Je vais faire les marches avec ces recrues. Je vais aller sur le terrain avec eux. Je vais aller me fondre dans la masse pour être un no-name. Ou personne, mais je vais être là et leur dire, si vous avez besoin, venez. Il y aura de quoi pour ces personnes, que ce soit les recrues ou le commandement. J'allais dire, je ne vais pas faire de différence.
Du point de vue pratique, comment est-ce que votre employeur, donc vos églises, vos paroisses, ont-elles vu le fait que vous vous engagiez dans une telle formation et que quelque part, vous alliez investir une vingtaine de jours par année, c'est ça, dans le cadre de ce service? Maxime Jacquillart.
Ça a été bien vu parce que dès le départ, ils se sont dit que ça allait enrichir mon ministère et qu'ils allaient aussi en bénéficier. De plus, c'est vrai que là, je suis engagé à 80%, donc j'ai ce temps.
Vous avez
des
disponibilités.
Et puis, c'est vrai que ça entre aussi dans la vision de la fédération qui est ensemble pour partager l'amour de Dieu avec chacun.
Donc, la fédération, c'est l'AFRE, la Fédération romande d'Église évangélique.
Oui, donc voilà. C'est dans cet ADN aussi que c'est pour eux, c'est tout à fait légitime qu'un ministère puisse... partager cet amour au-delà aussi des, si on veut, des murs de l'Église.
Daniel Rufthart, vous-même, vous venez un peu du Jura ou du Jura bernois, de cette région là-bas. Il y a une tradition évangélique qui est très vive dans cette région, c'est la tradition ménonite, pacifiste. Est-ce que finalement cet engagement comme aumônier militaire ne vient pas contredire un enseignement du Christ que l'on peut trouver dans le Sermon sur la montagne et qui inviterait à aimer ses ennemis?
Ah, c'est une grande tension quelque part dans notre fonctionnement et dans notre réalité. Alors oui, on a les béatitudes qui nous disent qu'on doit être non violent, doit tendre l'autre joue. Un des 10 commandements dit « tu ne tueras point ». On est très clairement là. Mais on a aussi, dans la même parole de Dieu, un Dieu qui envoie son peuple conquérir un pays promis. On a, dans le cadre des cours d'éthique militaire, on a eu un exposé qui reprend les textes de l'Ancien Testament pour présenter le fonctionnement, justement. On est aussi là pour accompagner des hommes et des femmes qui sont en service, d'une certaine manière. Alors, en Suisse, on est une armée de défense, d'abord. Mais avec ce qui se passe un peu plus loin en Europe, on est confronté quelque part à cette question quand même. Et si, quel sera notre rôle? Et notre rôle en tant qu'aumônier sera justement d'autant plus important, ou est déjà maintenant d'autant plus important, parce qu'on est là pour venir en aide et écouter des hommes et des femmes qui ont des tensions justement en eux, autour d'eux, et des questions qui se posent.
Dans d'autres pays, en Europe ou en Amérique du Nord, vous avez des aumôniers qui sont estampillés protestants, catholiques, juifs ou musulmans. Est-ce que finalement vous rêveriez de quelque chose comme ça, une aumônerie à l'armée qui s'adresse directement à des co-religionnaires ?
Alors pour moi, ça me va bien, l'armée suisse telle qu'elle est, parce que d'une part, pour citer un exemple concret, quand j'ai fait une méditation sur Jonas, j'ai été enrichi de la lecture aussi de l'histoire de ce prophète par le juif et par le musulman présent qui m'ont expliqué leur vision des choses et j'ai réalisé que ça m'enrichissait réellement dans ma tradition. D'autre part, ça me permet justement d'être en contact avec d'autres personnes et là je trouve qu'il y a ce côté important que Jésus nous encourage finalement d'aller. Et donc je suis assez content de cela, même si effectivement ça génère un certain nombre de... Ça augmente la complexité, finalement. La question que vous posiez avant, ensuite, j'aimerais ajouter qu'en principe, l'armée suisse ne devrait exercer aucune violence, puisqu'elle est une armée de dissuasion.
Et donc, pour vous, par rapport à vos convictions chrétiennes, ça ouvre une possibilité d'aumônerie qui, quelque part, se veut pas agressive.
C'est ça. L'armée de dissuasion, on pourrait le dire de manière un petit peu provocatrice, c'est une manière d'aimer notre ennemi ou nos ennemis potentiels que de les dissuader de ne pas nous attaquer afin de respecter le commandement « tu ne tueras point ». Et je dirais que par rapport à ça, au niveau de l'éthique militaire, on a eu toute une réflexion là-dessus. Finalement, cette question de violence dans le monde résulte de la défaillance des hommes et des structures et que Luther lui-même expliquait que tout meurtre nous rend moralement coupable, hein, même si juridiquement on n'est pas coupable. Donc ça reste une zone de tension, ça reste un sujet qui est grave. Mais comme le disait l'évêque de Milan, celui qui ne lutte pas autant qu'il le peut contre l'injustice qui menace son prochain est aussi coupable que celui qui la lui fait subir. Il y a donc une tension entre, je dirais, l'Église et l'État, avec la responsabilité de l'État et des responsabilités politiques d'éviter qu'une injustice grande se propage. Donc il y a un sujet, il y a un vrai sujet.
Il y a une tension.
Il y a une tension et le mot tension est vraiment adéquat.
Du point de vue concret, comment est-ce que ça va se passer? Donc, vous venez de terminer ces 3 semaines de formation, vous avez reçu votre magnifique grade de capitaine. Vous commencez votre service quand, Daniel Rufnacht?
Alors, on est encore en processus d'être affilié à une troupe. Pour moi, ce sera soit une école de recrue ou un cours de répétition qui va débuter très certainement pour le début de l'année suivante, donc 2023.
Donc, ce sera en 2023.
Mais avec possibilité déjà de pouvoir intégrer une équipe en cours de route en deuxième partie de l'année.
Maxime Jacquillard, vous-même, vous avez déjà un engagement qui est prévu?
Non, on est dans l'attente de notre affectation.
Et ça devrait être peut-être à Bière, c'est ça?
Alors, je visais Bière, mais on verra si ça peut se concrétiser. Ça dépend aussi du tournus des aumôniers. Il se trouve qu'il y a déjà une présence de l'aumônerie à Bière, donc ça pourrait également être Moudon. Bien sûr, on a exprimé le vœu que ce soit assez proche parce qu'il y a une meilleure adéquation, plus de présence, plus d'efficacité. Mais en même temps, voilà, soyons ouverts, on verra.
Maxime Jacquillard, Daniel Rufnacht, je rappelle que vous êtes pasteur dans une église de la Fédération romande d'églises évangéliques, la FRAE, et que vous comptez parmi les premiers évangéliques romans à devenir aumônier dans l'armée suisse. Merci de nous avoir rejoints en uniforme ce matin.
Merci à vous de nous avoir reçus.
Si vous souhaitez réécouter cette émission ou la faire écouter à d'autres, ne manquez pas de visiter notre site www.radio-r.ch. Un article et un podcast devraient suivre prochainement. Merci à Erol pour son aide précieuse à la technique. Excellente suite de journée à chacune et à chacun. À bientôt.
Un air d'actu avec Serge Carrel.